Salut les marques, salut les smarts et bienvenue dans le supplément SmackDown de Catch Up, votre émission qui résume et analyse chaque semaine le show bleu de la WWE SmackDown Live. Je suis Irem et je suis accompagné, comme toujours, de l'ami Giscal. Salut Giscal.
Salut Irem, salut tout le monde.
Alors, comment ça va aujourd'hui, Giscal? Là, à quelques encablures, quelques.
Exactement.
Plus que quelques kilomètres, quelques jours qui nous séparent de.
Ouais, on est sur la route et on commence à voir poindre à l'horizon le signe de WrestleMania, en effet.
Ah,
donc,
oui.
Donc, ça va bien. Ouais, ça va bien. Et toi?
Moi, l'excitation commence quelque peu à monter. Hein. Il faut bien l'avouer. Il y a un moment, il faut être excité quand même.
Ah, bon, se lâcher, quoi.
Ouais. Donc, dans moins d'une semaine, nous serons dans l'avion en direction de la Louisiane pour la WrestleMania Week. Hein, parce que maintenant, c'est plus un week-end, c'est carrément une semaine où on va bouffer du catch et de la friture. Donc, restez connectés hein, sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, sur le YouTube, sur le iTunes et PodCloud. Bref, restez connectés avec nous pour découvrir notre route en direction de WrestleMania. Un gros programme qui s'annonce, mais on n'y est pas encore. Puisqu'il y avait encore deux SmackDown. Il y a encore deux SmackDown avant le plus grand événement de catch planétaire. Et nous allons vous parler donc de l'avant-dernier SmackDown qui avait lieu le 27 mars.
Oui.
Je ne sais plus où d'ailleurs. On a arrêté de dire où ça se passait. Peut-être qu'on pourrait. En tout cas, ce n'était pas à la Nouvelle-Orléans.
Non, ça c'est sûr. C'était où? C'était pas. Ah, si, c'était à Pittsburgh, parce que je me souviens.
Daniel Bryan en fait référence.
Yeah, Steel City, la ville de l'acier.
Ouais, la ville des ouvriers. Des vrais.
Les métallurgistes. Tac.
La métallurgie. Ça me fait penser à un épisode des Simpsons où t'as une comédie musicale qui démarre avec des mecs qui bossent dans la métallurgie. C'est très très drôle. Mais on va pas vous parler des Simpsons. Non. On va vous parler de Shinsuke Nakamura qui fait semblant. Jinder provoque la Rusev Mania. Daniel Bryan fait tomber le cardigan. Et les filles se balancent par-dessus la troisième corde. On commence avec un match, ce qui est rare. Un épisode de SmackDown qui commence directement aux affaires du catch, puisque entre les cordes ce soir, Orton et Rude vont faire équipe et affrontent normalement Jinder et l'un de ses sbires. Mais voilà, un des frangins a le bras en écharpe hein, pendant que l'autre est à l'hôpital. Donc il n'est pas capable de catcher ce soir. Du coup, Jinder a ramené un prestigieux. Et j'insiste hein, sur. Le qualitatif de prestigieux partenaire en la personne de Rusev. Grosse pop, évidemment, pour le Bulgare. Le match commence.
C'était Rusev Day, en plus.
C'était... t'es sûr?
Ah oui, ils l'ont dit.
Ouais, ok, bon, je te crois sur parole. En tout cas, pour la foule, c'était un Rusev Day, effectivement, tellement elle était agréablement surprise. En tout cas, heureuse de voir Rusev ce soir. Orton et Bobby Roode donc, travaillent ensemble, hein, mais c'est difficile hein, de ne pas se chamailler à l'approche du match hein, pour le titre US qui va mettre aux mains au moins deux de ces bonhommes. On se balance des vannes, on se pique les spots, ce qui profite hein, inévitablement aux méchants qui martyrisent longuement, pendant de très longues minutes, le peu glorieux Bobby, pendant que Randy se fait les ongles. Je ne sais pas si tu as remarqué, il était vraiment en mode... pas lazy, mais un peu provoque hein, par rapport à Bobby Roode. Et à un moment, tu le vois en train de se regarder les ongles comme ça, il se les nettoie. C'est voilà, Randy Orton taquin, Randy Orton qui gesticule et il en fait des tonnes. Pour ceux qui l'ont déjà vu en house show, c'est typiquement le Randy Orton qu'on avait à ce soir. Un tag taquin de Randy qui met de l'huile sur le feu. Hein, il tag Bobby Roode à son insu. Bobby, du coup, le bouscule sans faire exprès dans un spot. Le ton monte. Et le RKO tombe. Rusev, plus rusé que les autres, dégomme la vipère d'un gros kick pour la victoire. La victoire donc des méchants. Et on a une incroyable séquence backstage, peut-être la meilleure séquence backstage d'Indermal depuis très longtemps. Où voilà, l'Indien célèbre avec enthousiasme cette belle victoire. Il remercie généreusement Rusev en lui offrant des places au premier rang à WrestleMania pour venir l'admirer dans son match de pré-show.
Quand on sait le prix que ça coûte, franchement, c'est un beau cadeau. Hein.
C'est un cadeau d'une valeur non pas inestimable, puisque c'est très facile d'en trouver le prix, et le prix est élevé. Mais Rusev a mieux à proposer, comme il a fait le tomber, qui plus est, sur le champion US. Il va voir Daniel Bryan, il compte voir Daniel Bryan et lui demander de transformer la triple frite en Fatal Four et « It will be Rusev Mania », nous chantonne Aiden English. Écoute, moi, j'ai beaucoup aimé cet opener, avec notamment cette séquence backstage. Toi, qu'en as-tu pensé ?
Eh bien, ouais, c'était très très cool. Donc déjà, ne serait-ce que pour avoir commencé sur un match, comme tu l'as dit, c'est suffisamment rare pour être souligné. Donc c'était très sympa. Alors, dès qu'ils ont annoncé Rusev, bon, c'était un peu cramé, mais c'est qu'il allait faire le tomber et qu'il allait probablement demander sa place. Mais en tout cas, ça faisait tellement plaisir à tout le monde que c'est du prévisible, mais du bon prévisible, on va dire. Là, c'était sympa. C'était un match qui n'enflammait pas les foules, hein, on va pas se le cacher, ce triple threat. Il était c'est pas si évident de dire qu'il aurait été dans le pré-show, parce qu'il y a quand même Randy Orton dans l'équation, mais c'était un candidat sérieux au pré-show. Seul l'est peut-être toujours d'ailleurs, mais bon, au moins maintenant, je pense que tout le monde peut s'y retrouver un petit peu et on a tous un petit peu plus envie de voir ce match parce que, Rusev est populaire. Enfin, en tout cas, Rusev est populaire. Rusev fait réagir. Il est sympa, il est fun, il est marrant. On va avoir du Rusev Day, ça va être Rusev Mania. Donc c'est vrai que j'étais assez content de voir ça. Le petit échange backstage. Alors moi, j'ai trouvé, je suis d'accord, je suis content que tu le soulignes, mais j'ai trouvé que Jinderman était très bon dans cet exercice. Il commence à transiter petit à petit du heel très agressif, étranger, avec ses promos sur le ton du « Ouais, les Américains, c'est des racistes, machin et tout ». Je pense qu'il est passé maintenant, il a transité vers ce heel un peu genre… complètement délusionnel là, enfin genre c'est toujours dans ses promos, il est toujours complètement à côté de la plaque, mais il surjoue à fond et je trouve qu'il le fait pas trop mal. Et donc du coup c'était pas mal. Ouais, tout ce petit enchaînement était bien, ça a bien booké le match. Donc content de voir un Fatal Four Way.
Oui, donc Rusev qui du coup va faire bousculer peut-être les pronostics pour la bataille André le Géant. On en reparlera plus tard puisqu'il y a eu un petit rappel à cette bataille royale qu'on oublie un petit peu. Hein. Il y a tellement de choses à booker que c'est peut-être le dernier de leurs soucis. Allez, on continue avec la division féminine. Ruby Riott ce soir a affronté Becky Lynch. La punk à chien a mangé du lion avant ce match où elle a fait parler sa rage. Les coups pleuvent sur le feu de l'Irlandaise qui parvient malgré tout à rafler la victoire sur... un petit paquet, hein, parce que bon, faut pas déconner non plus. Donc, un match pour nous rappeler que tout ce beau monde se balancera par-dessus la troisième corde à WrestleMania. Donc voilà un autre match pour nous rappeler qu'il y a une bataille royale, cette fois-ci féminine. La WrestleMania Sneakers Bataille Royale de WrestleMania. Et Becky Lynch qui gagne un match à la télé. Écoute,
quand même.
C'est quand même notable. C'est au moins une bonne chose à noter. Et Ruby Riott qui a montré... les deux ont plutôt bien... ont produit un match plutôt sympa où elles ont vraiment pu dérouler un peu leur arsenal. Qu'est-ce que tu arrives à retirer de ce match-là ?
À part le fait que Becky Lynch ait gagné, c'est pas grand-chose. Je suis content qu'elle ait gagné, ça fait plaisir, ça faisait longtemps.
Ça fait
J'ai été plus surpris, en fait, parce que, à la limite, la victoire sur Petit Paquet, elle aurait été très oubliable. Ça veut pas dire grand-chose, de toute façon. À la WWE, aujourd'hui, maintenant, les victoires s'échangent un petit peu comme ça. J'ai été plus surpris de la voir nettoyer le ring derrière à 1 contre 3. Ça c'était plus surprenant parce que je pensais qu'elle allait choper une victoire mais qu'elle allait se faire tabasser derrière gentiment et tout. En fait pas du tout, elle a vraiment gagné jusqu'au bout, elle a même nettoyé le ring et elle a envoyé valser les deux autres par-dessus la troisième corde, donc c'était vraiment pour le coup Becky Lynch, est-ce que Becky Lynch revient sur le devant un petit peu de la scène, est-ce qu'elle se positionne comme une favorite pour cette bataille royale où au final il y aura très peu de haut profil hein, à part elle, donc écoute pourquoi pas, ça peut être une... Ça me ferait plaisir, donc...
Ouais, voilà, hein, c'est probablement la plus grosse prétendante du côté de SmackDown pour la Bataille Royale, donc il fallait la mettre en avant, et c'est ce qui a été fait. Donc bon, on va pas trop se creuser les sinus. Becky Lynch a gagné et c'est tout ce qui importe.
Se creuser les sinus.
Allez, on enchaîne. Bon, écoute, c'était un hommage à Ric Flair. Important. Daniel Bryan a quelque chose à nous dire. Kevin Owens et Sami Zayn sont ses potes. Alors voilà, il nous explique. On va remettre un peu de contexte dans tout ça. On se souvient tous, la semaine dernière, il est revenu, voilà, il est clear. Mais il a quand même viré Kevin Owens et Sami Zayn. Quand même. Et il s'est fait du coup passer à tabac, parce qu'on ne vire pas les gens comme ça. Ça ne se fait pas. Donc voilà, il est de retour. Et là, il nous explique un petit peu ce qui s'est passé la semaine dernière. Et pourquoi il en est arrivé là. Et après, on verra, il bascule sur autre chose. Mais voilà, il explique. Bon. Kevin Owens et Sami Zayn sont ses potes, ils ont roulé leur boss ensemble, voilà pourquoi je les supporte, hein, pourquoi il les a encouragés autant. Mais que c'est la terre des opportunités, quoi. C'est vraiment le credo depuis le début de SmackDown. Et du coup, voilà, il a pas mal cogité, et comme du coup c'est cette fameuse terre des opportunités, qu'il est toujours le GM, il va leur filer un dernier match, donc une dernière opportunité. Donc là, il nous explique... que ça va être donc Kevin Owens, Sami Zayn contre Shane McMahon et Daniel Bryan. On apprend d'ailleurs dans la soirée que Shane McMahon est sorti de l'hôpital, donc ça va pour lui, ça va pour lui. Et la stipulation, parce qu'il faut bien une stipulation quand même, il a bien compris, la stipulation là c'est un peu plus bizarre, si Kevin Owens et Sami Zayn perdent, ils sont toujours virés, bon, voilà, c'est le côté un peu bizarre du truc, et s'ils gagnent, ils sont réintégrés. Voilà, donc pas plus d'enjeux que ça pour l'instant. Mais voilà, hein. Ce sera peut-être son dernier acte de GM, hein, visiblement, parce qu'il en a marre. Hein. Des réunions, des calls, des cardigans. Voilà, il n'aime pas la façon dont il doit s'habiller pour aller au taf. Hein. C'est un catcheur. Et il va casser la gueule à Kevin Owens et Sami Zayn à WrestleMania. Donc là, il s'énerve, hein, il arrache tel Hulk, pas Hogan, hein, l'autre. Même si Hulk Hogan faisait aussi la même chose, il arrache son cardigan, le jette, il a son t-shirt de catcher, enfin il a son t-shirt, c'est le Daniel Bryan, le catcher qui apparaît à l'écran, et donc le rendez-vous est pris avec un Daniel Bryan plus remonté que jamais. Est-ce que cette histoire a bien fait progresser Daniel Bryan, puisque la storyline, on se posait des questions sur, déjà, la stipulation. Qu'est-ce que tu penses de cette stipu?
Ouais, alors j'ai pas compris la stipulation. J'ai pas compris parce que ça sonne pas très très juste, moi je trouve tout ça, c'est pas très cohérent. C'est pas très cohérent parce que c'est un peu précipité aussi. Parce que c'est vrai que, alors voilà, on saura jamais si cette décision de clearer Daniel Bryan est arrivée tardivement parce que c'était comme ça que c'était prévu, ou c'est parce que vraiment ils ont eu la position définitive des assureurs, des bookers, des tout vraiment tardivement, et voilà. Et ce qui fait qu'ils ont squeezé des semaines de build ou pas, mais toujours est-il que là c'est vrai qu'on passe d'un beatdown horrible 2 semaines de suite sur Shane McMahon et sur Daniel Bryan au pré-go home show à nous dire bon ils sont horribles mais je vais encore leur donner une opportunité de revenir. C'est bizarre, enfin moi je comprends pas, parce que à la limite qu'ils leur disent venez à WrestleMania, on va vous cogner sur la tronche avant de vous envoyer définitivement à la retraite, enfin genre avant que vous soyez définitivement viré, parce qu'après tout on n'a pas eu l'occasion de pouvoir prendre notre revanche, mais de leur donner l'opportunité d'être réintégré s'ils gagnent le match. En fait, je vois pas pourquoi en fait ils auraient le droit à une telle stipulation. C'est un peu bizarre juste après ce qui s'est passé les 2 semaines d'avant. Surtout la deuxième partie de la promo de Daniel Bryan invalide un petit peu cette stipulation, parce qu'il nous l'explique en plus. Il nous dit pour moi c'était le plus beau jour de, enfin c'était le plus beau jour de ma vie, plus grand jour de ma carrière la semaine dernière quand on m'a dit que j'allais pouvoir refaire ce que j'ai aimé faire pendant 16 ans et tout ça machin, et ces deux enfoirés ils ont essayé de me voler ça, enfin tu vois, ils ont fait un acte de trahison ultime vis-à-vis de Daniel Bryan d'essayer de le blesser alors qu'il venait tout juste d'être clair, et là il est en train de nous faire une histoire de land of opportunities, on s'en fout un peu. Donc en fait, on aimerait. J'écoutais J'écoutais le podcast de Ringside et Hank hier sur Raw qui disait que la carte de WrestleMania était sympa, mais elle manquait peut-être, elle était un petit peu gentille cette carte, et il manquait peut-être une Bloodfeud, enfin il manquait une vraie rivalité un peu terrible, genre avec des vrais, avec une vraie stipulation, des vrais griefs, des vrais, enfin un vrai gros enjeu. On avait potentiellement l'opportunité d'avoir ça, et là je trouve que c'est bizarre, enfin genre c'est bizarre, ça tombe pas juste. Donc je suis pas. Alors après, qu'est-ce qu'il aurait fallu faire, je sais pas. Moi, je trouve que peut-être un match
sans stipule en fait.
Sans stipule.
Autre que se mettre sur la gueule.
En mode no disqualification, mais sans la stipulation de pouvoir les réintégrer. Ça, parce que eux, ils sont trop heureux. Ils sont super contents. Ils ont foutu.
Ils ont rien à perdre là.
Ah, ils ont rien à perdre, ils ont tout à gagner, et en plus ils ont l'opportunité de encore venir foutre la merde. Donc ouais, bizarre, ça colle pas trop. Donc attendons de voir ce que Shane va dire peut-être la semaine prochaine quand il va revenir. Mais
je suis d'accord avec toi là, vraiment moi. Enfin la logique est terrible là, parce que Daniel Bryan, il y avait deux choses à faire ce soir-là, c'était donc placer la stipulation et officialiser le match hein, évidemment, ouais. Et après montrer qu'il a la niaque.
Ouais, voilà.
Donc il a fallu faire la transition entre les deux, montrer qu'il a gagné, qu'il l'a bien fait. On a compris qu'il était, mais c'était important, c'est vrai, de terminer là-dessus, d'autant plus. Mais après cette histoire de stipulation, nous on essaie déjà d'anticiper la stipulation, en tout cas les enjeux officiels du match la semaine dernière. Mais si c'est pour avoir ça, autant ne rien avoir et effectivement rester sur quelque chose, parce que finalement il a tellement la rage, comme tu l'as bien expliqué. De s'être fait trahir par ses amis, c'est ce qu'il nous explique. Il nous explique que c'est une amitié de 15 ans. Ouais. Sauf que
ils partageaient leurs hôtels ensemble, leurs chambres,
voilà,
machin.
Tel Chimus et Cesaro, ils dormaient ensemble. Et, et cette amitié-là, voilà, a alimenté le fait, l'a poussé lui à toujours leur accorder des opportunités. Et ils sont allés trop loin cette fois-ci. Et comme tu l'as dit, ils ont gâché le plus beau jour de sa vie. Enfin de sa vie. Oui, mais elle était dans la pro. Le plus beau jour de sa vie, sauf tous ceux qui passent évidemment avec sa chair étendre. Mais et ça aurait dû être effectivement, comme tu l'as dit, une rivalité sanguine, quoi, de mecs qui veulent juste se remettre sur la tronche. Ils se sont fait virer, limite en disant c'est un match presque non officiel. Toi, c'est des mecs, on met pas en avant le fait qu'on est, on s'en fout d'être GM, on s'en fout d'être commissionneur, on s'en fout d'être salarié, freelance ou quoi.
Ouais,
juste quatre gars veulent se mettre sur la tronche parce qu'ils ont passé leur temps à se trahir, à se mettre des bâtons dans les roues. Et là, cette stipulation-là n'ajoute rien à la dramaturgie, si ce n'est pire, elle la désamorce parce qu'elle n'apporte rien et qu'on en a pas besoin. Donc on verra, comme tu l'as dit, la semaine prochaine, ce qui va être rajouté par-dessus.
Surtout qu'en plus, c'est bizarre parce que ça. Enfin, moi, j'aurais préféré vraiment que ce soit 100 parce que ça casse un peu. Ça casse un peu le suspense du. Enfin, je sais pas. Est-ce que ça casse le suspense? Parce que c'est bizarre quand même. C'est bizarre de dire si vous gagnez, vous êtes réintégré, parce que. Enfin, on sait qu'ils vont revenir à un moment ou un autre quand même, ces deux-là. Donc du coup de le mettre en stipulation, je trouve que c'est un peu bizarre, parce que moi je trouve que ça aurait mieux fonctionné si on avait juste dit écoutez j'ai bien fait de vous virer, vous êtes vraiment des enfoirés, contre vous allez me faire le plaisir de ramener vos culs à WrestleMania juste exceptionnellement pour que je puisse vraiment vous botter vous botter le cul là, comme il dit, et après vous dégager une bonne fois pour toutes et c'est terminé. Et après on aurait pu se dire, après WrestleMania, en fonction de la tournure du match, on ne sait pas, il y a un match héroïque ou un truc où Daniel Bryan change d'avis, dit ouais, bon, c'est quand même trop bête, machin, et puis il y a une nouvelle histoire qui serait enclenche là-dessus. Ou alors, au contraire, il gagne et du coup, il continue à faire des pétitions pour se faire réintégrer, machin. Mais le fait de le dire en stipulation, je trouve que c'est vraiment trop bizarre. Enfin,
Ouais, voilà, des fois, il vaut mieux ne pas trop en dire.
C'est ça.
Bon, allez, toujours est-il qu'on est quand même toujours hypé pour ce match. Ça, il n'y a pas de problème. Okay. Les Yes Chants vont faire exploser le toit, mais pas trop, puisqu'ils annoncent de l'orage.
Faut garder le toit.
Il y aura de l'orage au-dessus et en dessous du toit. Division Tag Team, le New Day. Ah, ils sont fait rouler dessus, ils nous expliquent, hein, par les Bludgeon Brothers, qui ont voulu les priver de WrestleMania en leur faisant sortir de la route hein, pour le pay-per-view. Et ils ont fait une grave erreur. Ils les ont laissé la capacité de marcher, donc il nous fait une grosse promo là, les New Day, pour se remettre dans l'esprit des gens qui seront bien là à un WrestleMania, alors les New Day vont leur rouler dessus ce soir pour récupérer leur bien, le fameux WWE World Tag Team Championship. Et donc ce soir, ils ont un match. Et oui, ils ont un match contre les frères Marteau. Les New Day donc résistent aux assauts hein, des frangins. Mais le match est perturbé assez rapidement par l'intervention énervée là, des frères Uso. Il y a beaucoup de frangins venus en découdre. Les Samoans et les mangeurs de pancakes finissent par s'embrouiller. Hein, ils ne sont pas très contents. C'est chacun doit se mêler de ses affaires avant de fuir sous les coups de marteau. Hein, on en a dû parler la dernière
fois.
Coups de maillet de cosplayer. Qui frappe le sol et rebondissent. C'était beau. C'est du beau goodies. Et donc, voilà, les Bludgeon Brothers donc, qui frappent la division tag team. Et voilà, donc on nous remet dedans. Ça n'évolue pas forcément énormément. Toujours pas de, pour la peine, toujours pas de stipulation à l'horizon, alors que les mecs se mettent sur la tronche avec des chaises, des escaliers et des marteaux.
Ouais, mais je perds pas espoir. Je pense qu'on l'aura. Là, c'est stipulation. Bon, même si on continue. Enfin, il faut quand même rappeler qu'un triple threat, c'est toujours nos disqualifications. Hein, mais enfin, pas de disqualification. Mais je pense qu'on aura quand même un petit truc au go home show entre les trois équipes. Genre un maillet match. Je sais pas un truc.
Un maillet match. Ouais, pourquoi pas, ça pourrait le faire. Hein, écoute.
Non, mais je sais pas. Il y aura un truc. Je sais pas genre. Mais bon, ouais, c'était sympa ce petit segment. On a eu beaucoup de promos les dernières semaines. On a eu les promos des Uso, on a eu les promos du New Day, de Big E, on a eu des tag match mix d'équipe, on a eu plein de trucs. Donc là, on est revenu à du très classique, un tag team avec une brawl et tout le monde arrive et tout le monde se fout sur la tronche. Donc c'est efficace, ces petites transitions. On aura sûrement une petite dernière promo la semaine prochaine pour continuer à nous hyper tout ça et peut-être avec une stipule. Moi, je trouve ça sympa. Le seul machin que je regrette, c'est moi, j'aimerais qu'ils arrêtent de se servir de ces foutus marteaux en plastique là, parce que à chaque fois, ça commence à monter. Je me dis yes, putain, parce qu'en fait, les Bludgeon Brothers, ça y est, ils sont suffisamment impressionnants par eux-mêmes, ils n'ont pas besoin de leur marteau pour faire peur, tu vois. Genre. Et ça commence à monter, ils vont se foutre sur la tronche, ils vont commencer à faire des trucs, et là, ils sortent encore leur marteau play school, là, et du coup, à chaque fois, je me dis putain, c'est vraiment ridicule ces marteaux là. Surtout qu'en plus, t'as Tom Phillips derrière qui gueule et fait oh non, they've got the mallets, comme ça. Et leur dire bon, ouais. S'ils pouvaient juste se passer des marteaux en plastique. À chaque fois, j'ai l'impression que quand ils vont frapper, tu sais, ça va couiner comme les jouets pour chiens.
Oui, oui.
donc, ouais, non.
Ouais, comme cette vidéo, t'as le mec qui appuie sur plein de jouets pour chiens en même temps et ça gueule dans le magasin, cette espèce de canard là, de dindon qui hurle à la mort. Ouais, surtout que ça y est, les gars, c'est bon, on a compris, on accepte maintenant le côté. On a digéré le côté complètement tordu, loufoque très ridicule des Bludgeon Brothers maintenant. Et c'est vrai hein, moi quand je les vois arriver maintenant, je me dis plus oh, ils ont l'air ridicules ou
ouais, oh là là, ça va barder quoi.
Toi c'est passé toi, donc n'essayez pas de nous faire regretter ce temps là en disant ah mais si regarde, en plus ils ont des marteaux, ils ont pas utilisé
regarde, ils ont des énormes marteaux.
Plutôt ils vont lancer des pouvoirs en post-prod. Non, c'est bon quoi, on n'en veut pas de ça. Allez, il reste un petit match, un squash, enfin avant le main event évidemment, puisque Dolph Ziggler a battu Tyler Breeze dans un petit match qui lui était là pour nous rappeler justement The Andre the Giant Memorial Battle Royale whatever. Voilà, on a vu la statue de André.
C'est vrai, on a vu la statue d'André.
Tyler Breeze et Fandango ont fait les rigolos. Fandango là, à un moment ils couraient, ils sont pourchassés tous les trois autour du ring. Et Fandango lui ne s'est pas arrêté, donc il courait tout seul. Donc après il avait un point de côté, comme ça tu le voyais en train de cracher ses poumons. Donc c'était plutôt drôle. Et puis Dolph Ziggler voilà, qui empoche une victoire face à un Tyler Breeze qui en deux minutes a quand même réussi un peu à lui tenir tête. Donc voilà, on nous montre des petits prétendants pour la bataille royale auquel Rousseff ne participera pas.
Et non, qui va gagner cette bataille royale?
Ouais, oui. Là, je pense qu'on pourra en reparler pendant le pré-show, mais à l'heure actuelle, tous les top stars...
ils nous ont sorti tous les potentiels favoris.
Ouais,
Rousseff, Strowman.
Rousseff, Strowman, ils ne sont pas eu. Voilà, donc on nous reste plus que de la mid-card, du Baron qui a déjà gagné, du oui. Dolph Ziggler. Voilà, c'est vrai que Haro aussi, on va voir quelques mid-carders du même Akabi, mais pas de gros, pas de star power. En pré-show dans la Battle Royale, on laisse ça pour les gros combats. C'est peut-être pas plus mal finalement. Mais oui. Bon, c'était, ça fait plaisir de voir Tyler Breeze se battre entre les cordes. Voilà la Fashion Popo, voilà, un petit peu oublié hein, depuis le début de l'année la Fashion Police. On est passé
clairement
à autre chose. Voilà, ils auront peut-être un programme, peut-être un peu plus tard. Nous verrons bien.
Allez. Ils font toujours le taf.
Ouais, ils font le taf, tout comme Nakamura qui, ce soir, a donc un match face à Shelton Benjamin. Mais avant ça, on a eu une petite séquence backstage de The Nakamura Mind Games hein, qui s'inquiète de l'état des Jay Styles. Il vient le voir comme ça, toujours avec ses grimaces. Tous deux veulent affronter un adversaire qui soit au top. Hein. Nakamura il dit « Moi, je vais affronter un gars qui est au top. » Et Jay Styles dit « Moi, je veux affronter un gars qui est au top. » Donc pas d'excuses. Et Jay Styles finit par accepter donc, l'invitation du japonais à l'accompagner ringside hein, dans le match qu'il opposait justement à Shelton Benjamin. Du coup, il y va. Hein, il sera dans le coin pour... Enfin, il est au commentaire peut-être. Je ne sais plus s'il est dans le coin. Non, il est dans le coin. Il est dans le coin.
Il est dans le coin. Mmh.
Tout comme Chad Gable, hein, évidemment, c'était l'idée. Il accepte en disant effectivement, Chad Gable sera là. Donc ok, bon, bah, allez, je viens. Du coup, bah, Edge Styles fait un peu le boulot justement. Il neutralise un moment Chad Gable qui tente d'interférer dans le match. Nakamura, lui, Nakamura et Shelton Benjamin pour l'instant s'affrontent dans un match plutôt stiff du côté de Nakamura et assez technique avec Shelton Benjamin qui a vraiment qui fait un bon adversaire, pardon. Mais à la fin, c'est évidemment le japonais qui l'emporte sur un Kinshasa, hein, évidemment.
Évidemment.
Évidemment, dans un match donc, de moins de 10 minutes. Et AJ Styles donc, est là. On a, il lui dit... Nakamura révèle à AJ Styles qu'il ne l'avait pas invité pour qu'il l'aide. Donc il prend le micro. Les deux autres zigotos sont partis. Enfin, ils sont sur le côté, sur ringside. Mais pour que AJ Styles voit comment il allait le battre à WrestleMania. Donc, c'est une petite provocation, quoi. Regarde, tu vas bien voir. C'est comme ça que je vais te battre. AJ Styles lui dit que, voilà, que tout ça, c'est des mind games. Que c'est peut-être un jeu pour lui, mais pas pour AJ. Parce qu'il est chaud bouillant. C'est sa maison qu'il a construite, bordel. Nakamura lui rétorque qu'AJ est trop émotionnel. Il repart le japonais et quand il se retrouve sous le titantron, et ben c'est à ce moment-là que Gable et Benjamin en profitent pour attaquer AJ Styles. Le japonais revient, il chasse les vilains et là on a AJ Styles qui est à terre. Nakamura qui voit son adversaire au sol. Il arme le Kinshasa dans le coin du ring. La foule commence à faire oh, qu'est-ce qui se passe ? Mais tout ceci n'était qu'une énième provocation. Il s'arrête au dernier moment avant de frapper une petite tape sur la tête, là, comme un toutou. Et il le regarde et il lui répète « Need to face, need to face, need to face » avec ses grosses grimaces. Et AJ Styles s'est encore fait avoir. Nakamura a psychologiquement le dessus sur son adversaire. Mais est-ce que tout ça va suffire à WrestleMania ? On se pose la question.
Ah ça ! Suspense, on le saura lorsqu'on dévoilera nos pronostics, on ne sait pas. Est-ce que ça va suffire ? Moi, j'aime bien le côté mind games, là, c'est pas mal, finalement. C'est comme la torture de la goutte d'eau, là, c'est à force, de le répéter. Le knee to face, là, de toujours arriver avec son petit sourire insupportable en coulisses, au bord du ring et tout. Il finit par agacer. AJ Styles au point de rentrer dans sa tête et de le faire un peu il est trop émotif là comme il a dit ouais, en effet il craque un peu et puis bah là la petite touche finale j'aurais presque trouvé que c'était une belle image de Go Home de Go Home Show cette petite tape sur la tête là en mode c'est ouais, tu vois regarde je te l'avais dit Je te tiens, donc rendez-vous dans quelques jours. Bon, on aura encore un show pour ça, mais Donc c'est vraiment pas mal, je trouve. C'est sympa. J'attends quand même toujours. Je désespère pas de l'avoir lors du Gaume Show. Peut-être cette une promo, une grosse promo de AJ Styles, un truc qui nous enflamme un peu plus pour ce match que juste la partition du Dream Match toujours, hein, parce que ça on a compris hein, que c'était un Dream Match machin. Ça c'est sûr qu'ils se respectent, que c'est un Dream Match et tout. Finalement, celui qui apporte un peu de caractère dans cette rivalité, pour l'instant, c'est Nakamura, moi je trouve, parce que voilà, c'est lui qui essaye de faire bouger les lignes et de se démarquer avec ce jeu d'esprit, ce mind game, c'est là qu'il essaye de mettre en place, c'est son knee to face. Moi, j'attends peut-être que justement cette petite tape sur la tête va être le catalyseur de l'explosion la semaine prochaine d'AJ Styles avant le match, qui va nous sortir une super promo et qui va nous expliquer pourquoi il va défoncer Nakamura et que fuck tout ça, je suis phénoménal et ça va être la folie et tout. Moi voilà, j'ai envie qu'il prenne le micro et qu'il nous montre un peu de punch, un peu de caractère. C'est le champion de la WWE, donc j'attends ça de lui la semaine prochaine. Mais bon, en attendant, j'ai trouvé que ce petit twist, cette petite progression était pas mal cette semaine. Et soit dit en passant, le match entre Nakamura et Shelton n'était pas dégueu. Moi, je me suis bien amusé.
Ils se connaissent bien. Ils se sont déjà croisés au Japon. Alors, le Japon, c'est là où tout le monde se croise, de toute façon.
Oui.
Il n'y a pas de
grand carrefour.
Donc, ils se connaissaient bien. Et c'est vrai que du coup. Alors, je sais pas si ça illustre une fois de plus cette théorie qui veut que Nakamura
motive quand il veut.
Ouais, voilà, se motive quand il veut, et en particulier face à des mecs qu'il a déjà croisés ou contre qui tu sens qu'il a envie de se battre. Là, en l'occurrence, ce soir, il était motivé parce qu'il nous a sorti une belle prestation avec des coups qui avaient vraiment de l'impact. On sentait qu'il avait envie de faire mal. Hein. Il faisait vraiment tous des moves qu'on voit finalement rarement, alors que. Ça fait partie de sa panoplie, hein, quand il fait des retombées, là, quand il donne des coups de pied, mais en faisant comme une guillotine, en fait. Tous ces coups-là qui sont assez visuellement et aussi en termes sonores, sont toujours impressionnants. Et ça fait partie de ce fameux strong style qu'on a essayé de nous vendre à un moment donné, et puis qu'on avait un peu oublié. Et puis...
On remercie toujours Corey Graves, hein, qui fait l'effort de dire King of Strong Styles et je sais plus quoi d'autre comme nom, pendant que les autres sont là à l'appeler Rockstar Artist.
Pourquoi pas, il peut être les deux, mais il y a un moment il faut quand même mettre en avant le fait qu'il fasse mal, quoi, parce que Rockstar, ça allait 5 minutes. Là non, on a eu vraiment un bon match. Et puis c'est vrai que Nakamura tire vraiment son épingle du jeu là ces dernières semaines. De toute façon, on le sait, hein, AJ Styles, depuis qu'il a le titre, il a toujours, enfin, il est au top, hein, il y a pas de problème, hein. Enfin, clairement, entre les cordes, c'est toujours...
Moi, je trouve qu'il est au top qu'entre les cordes, mais bon.
Voilà,
ouais.
Mais après, dans les promos, il a pas trouvé son positionnement, ou il a pas évolué, hein.
Non, ouais, c'est ça.
On se contente de dire que c'est sa maison, mais bon, en attendant, il y a un mec qui essaie d'entrer dans ta baraque, là, de voler tes meubles, et tu l'accueilles un peu encore avec le sourire, donc il y a peut-être un moment, il va falloir...
C'est pour ça que je mise pas mal sur le fait que voilà, ce petit manque de respect qu'il y a pu avoir là.
Ça, c'était vraiment bien vu, la petite tape là, façon.
La petite tape, c'est. On est sorti du je te respecte, tu me respectes, c'est le Dream Match. C'est pour ça que vraiment j'attends la semaine prochaine qu'il y ait une réaction d'orgueil et que ça monte vraiment en intensité juste avant WrestleMania. Ça devrait, je trouve, être ça, parce que voilà, AJ Styles, il peut pas juste être. Virevoltant dans le ring, il faut qu'il ait du caractère aussi un petit peu. Et Richard qui nous dit sur le chat, j'ai envie que Nakamura gagne le titre. Bah, le truc, c'est pour le moment, si ça en reste là, c'est pour ça en plus que vraiment AJ Styles, il faut qu'il relève le niveau, il faut qu'il nous envoie un peu du feu là. C'est que pour le moment, il est dépeint comme favori, Nakamura, dans cette histoire, parce que semaine après semaine, il rentre dans la tête du champion. Et c'est vrai que pour le moment, si on devait en rester là, moi je trouve que Nakamura serait assez favori et j'aurais presque envie de le voir gagner le titre. Donc voilà, faut voir. Et AJ Styles va probablement faire le main event la semaine prochaine. Il aura sûrement un match pour faire miroir avec celui de Nakamura. Mmh. Qui sait, peut-être que ce sera AJ Styles contre Chad Gable, par exemple, pour faire le miroir. Ce serait la facilité standard. Mais voilà, il faut qu'il nous envoie du steak et qu'il nous envoie une belle promo pour que notre cœur soit dans la balance et qu'on ne sache pas. Sur quel pied danser.
Non, t'as raison de souligner. Moi aussi, étonnamment, en y pensant, j'ai presque envie de voir Nakamura rafler le titre, parce que, tout simplement parce que Je n'ai pas envie de voir un
champion. Des choses, quoi.
Ouais, il faut que ça change. J'ai pas envie de voir un champion qui est là à sourire, à se faire faire les poches avec le sourire, quoi.
Mm-hmm.
Allez, c'est donc le mot de la fin, l'heure du mot de la fin pour cet avant-dernier WWE SmackDown Live. Giscal, est-ce que tu veux bien, s'il te plaît, nous partager ton top, ton flop et ta note?
Yes. Mon top. En fait, on en a largement parlé à l'instant, donc ça va être simple. Mais c'était la petite tape sur la tête de Nakamura à la fin du show, moi, qui m'a à la fois agacé et fait plaisir, parce que du coup, j'avais envie de voir AJ Styles se relever et lui sauter dessus et lui foutre un pain. Mais voilà, c'est peut-être annonciateur d'un petit développement. Donc ça, j'ai beaucoup aimé cette petite conclusion de show qui n'aurait pas fait dépeint dans un vrai gaume. Et mon flop, pareil, on en a parlé, mais c'est le point d'interrogation, c'est cette stipulation pour l'autre gros main event de SmackDown, hein, Daniel Bryan et Shane McMahon, qui du coup offre une opportunité. Attendons de voir ce que Shane a à dire sur tout ça, parce qu'il est peut-être pas forcément d'accord avec la décision de Daniel Bryan, mais de donner l'opportunité à ces deux salopards de réintégrer le roster s'ils venaient à gagner à WrestleMania une semaine après les avoir virés. Je vois pas trop le truc. Donc ça, ce sera mon flop. Mais tout n'est pas perdu pour ce match. Hein. De toute façon, on va se marrer. Et puis, ma note, je vais mettre un 3 sur 5 cette semaine. C'était un bon petit épisode de SmackDown. Mais dans l'ensemble, bon voilà, ça y est. On sent quand même que les esprits sont tournés vers Mania. Ça reste un poil plan-plan. La majorité des matchs sont sans enjeu et sont assez courts ou un peu galvaudés. Donc voilà, le gros du travail est fait et les petites touches importantes manquent encore un petit peu. Donc voilà, 3, c'est un peu au-dessus de la moyenne, mais pas non plus.
Écoute, moi pour mon top, je vais le donner à cette promotion backstage entre Jinder et Rousseff. Ça fait plaisir. Tu vois que c'est des gars qui, quand ils se lâchent, quand ils sont bien, ils peuvent vraiment taper des super promos. Rousseff, il avait la banane et Jinder nous a sorti une belle prestation de heel complètement
à côté de la plaque.
Complètement à côté de la plaque. J'ai oublié de dire, mais tu sais, quand il demande à l'autre, à son sbire, de retirer sa minerve, parce que c'était du gros fake en fait, l'histoire de la minerve.
Ah oui,
l'autre pour la minerve.
Tiens, cette minerve de merde là. Tu vois bien que ça n'a pas fonctionné.
C'est ça. Ça, c'était très drôle aussi. Et mon flop, c'est le même que toi, hein, c'est vraiment le truc qui m'a le plus ennuyé dans cet épisode, c'est cette stipulation d'Alain Bryan, hein, cette première partie de promotion qui est vraiment détonné trop et finalement on n'avait pas besoin et limite nous ennuie plus qu'autre chose. Quoi. C'est
bizarre.
Bizarre. Bon, on verra la semaine prochaine. Quant à ma note, c'est un 3 également. Voilà, c'est de qualité, mais bon, on est tranquillou jusqu'au Gom Show.
Oui, clairement.
Donc voilà, c'était un bon épisode avec du bon catch, mais pas trop, des bonnes promos, mais pas trop. Allez, 3 sur 5, c'est dit, c'est fait. Catch Up, c'est votre podcast qui analyse évidemment tous les shows de catch de la WWE, mais pas que. Vous pouvez nous retrouver évidemment sur YouTube, hein, Catch Up CDC. On salue nos auditeurs qui étaient là dans le chat pour l'enregistrement en direct de l'émission. Vous pouvez également nous suivre en audio sur iTunes, sur PodCloud, vous pouvez comme ça nous écouter quand vous voulez, où vous voulez, en une fois, en deux fois, en trois fois, en reculant, en avançant. Voilà, je vais m'arrêter là. les réseaux sociaux, c'est Twitter, Ketchup CDC, Facebook, Ketchup CDC, l'Instagram aussi que j'ai créé, Ketchup CDC. Pour l'instant, il y a quelques photos, mais surtout, on en reparlera puisqu'on va un peu vous chauffer, vous teaser sur notre trip, notre Catch-up Mania, notre route sur WrestleMania. Mais voilà, j'en profiterai pour poster des photos, des petites vidéos quand on sera directement sur place. Donc ça peut être un moyen sympa pour vous d'avoir un aperçu de la folie qui va régner, hein, à la Nouvelle-Orléans pendant cette semaine jusqu'à SmackDown, hein, parce que on va pas s'arrêter à WrestleMania. Du coup, n'hésitez pas, Catch-up CDC sur Instagram pour avoir des petites photos, des petites vidéos de la Nouvelle-Orléans. Évidemment, n'hésitez pas à commenter sur la page de la vidéo YouTube en partageant votre top, votre flop et votre note, quel est votre ressenti? Est-ce que vous pensez que Nakamura a réussi vraiment à détruire le cerveau de AJ Styles? Est-ce que AJ Styles va construire autre chose que cette foutue maison de SmackDown? Est-ce qu'il va nous offrir
une nous construire
promo
un hôtel.
D'un hôtel? Il joue au Monopoly, le mec. donc, n'hésitez pas aussi à partager hein, sur les réseaux sociaux, à nous mettre des notes, à nous mettre des pouces, dans le sens que vous voulez.
Oui, on s'en fout des pouces vers le haut, vers le bas, vous pouvez y aller.
Ouais, poussez madame, poussez monsieur, on vous donne rendez-vous. Alors la semaine prochaine, on ne sait pas avec qui, on ne sait pas quand, on ne sait pas comment, mais il y aura évidemment l'analyse hein, des deux Go Home Show de Raw et SmackDown. Mais bon, nous entre-temps d'ici là, on sera dans l'avion. Je ne sais pas ce qu'ils diffusent SmackDown dans l'avion, ça on verra bien.
Bah écoute, on va le savoir. Ce sera c'était une question auquel on va avoir enfin la réponse.
Ouais, contactez Air France là, on va leur demander est-ce que vous avez le network sur la ligne. Bref, merci encore à tous nos auditeurs, nos auditrices. Merci à toi Giscal hein, pour ta fine analyse.
Merci, c'est IRM, c'est un plaisir.
Et on vous donne rendez-vous la semaine prochaine. On vous souhaite une bonne semaine de catch en direction de WrestleMania. Salut, salut.
Ciao.